principal enjeu, c'est le rétablissement des comptes publics, puisque le Ghana a dû demander l'aide du FMI parce qu'il avait des dettes beaucoup trop importantes. Et donc, il est soutenu par le FMI depuis quasiment 2 ans maintenant. Et donc, il va falloir trouver les moyens de remonter l'économie, alors même que la production pétrolière a commencé il y a 6 ans. Donc, normalement, on aurait pu penser que beaucoup d'argent aurait atterri dans les comptes et que l'économie aurait été plutôt florissante, mais les mauvais choix politiques ont entraîné la situation économique désastreuse, notamment l'augmentation du nombre de fonctionnaires, l'augmentation du salaire des fonctionnaires, ce qui fait que une très très grande partie du budget part dans ces salaires et qu'il n'y a absolument plus aucune marge de manœuvre pour les investissements. Donc l'économie s'est peu à peu essoufflée par manque de fonds publics et toutes les recettes pétrolières, ou quasiment toutes, sont passées dans les salaires des fonctionnaires. Donc ça a été vraiment quelque chose de pensé, de mal pensé, de même suicidaire au niveau économique. Et donc ils ont fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire quand une production pétrolière commence, alors même que les textes qui ont été écrits pour justement gérer ce secteur sont plutôt très bons.
Il y a aussi la question de la corruption au sein de la classe politique qui impacte justement ces difficultés économiques.
Je pense que le Ghana est probablement l'un des pays les moins corrompus d'Afrique de l'Ouest, pour une raison simple, c'est que les gens ont peur, y compris dans la fonction publique, parce qu'ils savent qu'il y a des alternances politiques. Il y en a une en 2007 et il y en aura probablement une aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir des poursuites. Donc, l'impunité n'est pas du tout la même que dans un pays comme le Nigeria. Donc, la corruption est plutôt plus basse que la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest.
Alors justement, le Ghana, c'est un peu le bon élève de l'Afrique sur le plan politique. Comment on explique cette stabilité assez étonnante?
Bah, par un homme, Jerry Rawlings, qui a été un militaire, qui a fait des coups d'État. Et qui après avoir été élu démocratiquement, a rendu le pouvoir en 2001. Et à partir de ce moment-là, s'est mis en place un système politique vertueux où les gens qui étaient présidents partent d'eux-mêmes du pouvoir. Donc je dis pas que forcément c'est quelque chose qui va rester dans le long terme et qu'il va y avoir aucun à-coup, mais c'est vrai que la période des coups d'État est révolue et ils ont un peu d'ailleurs le même profil que le Nigeria, c'est-à-dire c'est souvent les gens qui font des coups d'État, souvent des militaires qui mettent en place la démocratie, et à partir du moment où ils ont fait leur mandat, qui est au maximum de 2 fois 4 ans au Ghana, eh ben ils partent. Il y a un respect de ça, et c'est vrai que quand on va au Ghana et quand on parle aux gens au Ghana, ça paraît très 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 difficile de revenir en arrière à des régimes militaires. Ils sont très très habitués à leur démocratie, ils y tiennent et ils ont raison.
Et pour le prochain président, quels sont les défis qu'il va devoir relever?
Le principal, c'est le défi économique, hein, faire en sorte que les investissements continuent, faire en sorte de rétablir les comptes publics, continuer la discussion avec le FMI, essayer de faire baisser le pourcentage des taux d'emprunt, parce que les taux sont très très importants pour le Ghana du fait de la dette. Et il va falloir gérer un petit peu mieux les revenus pétroliers qui vont augmenter, puisqu'il y a eu de nouveaux gisements qui ont été mis en production en l'été 2016. Et il y en aura encore d'autres dans les prochaines années. Il va falloir aussi, ça c'est une des promesses de campagne, de faire en sorte que le Ghana devienne un exportateur d'électricité dans la région, et il en a les moyens du fait de son gaz et de son pétrole. Et donc il va falloir passer des accords avec les pays environnants pour essayer d'avoir d'autres revenus. Et donc, et d'essayer aussi de faire une politique avec moins d'idéologie, et faire en sorte que justement la fonction publique est importante, la compétence des fonctionnaires doit être rémunérée à juste valeur, mais qu'à partir du moment où on a trop pour un pays qui reste quand même assez pauvre, bien ça empêche le pays de se développer. Et évidemment, on a Akufo-Addo, le candidat du NPP, donc qui est le parti, pour faire simple, de la droite ghanéenne, plutôt libérale, va certainement couper énormément dans la fonction publique. Quant à John Mahama Dramani, il a commencé à essayer de mettre en place des réformes, mais c'est de ses décisions que découle cette crise économique.
Et du coup, est-ce que le président Mahama a ses chances, ou est-ce qu'il a trop déçu pour pouvoir gagner cette élection?
Il a ses chances pour une raison simple, c'est qu'il a les leviers du pouvoir avec lui. Donc, il a fait une campagne très très agressive, Il allait dans toutes les provinces, il a les moyens de l'État. Donc on est dans une démocratie, mais il a quand même beaucoup plus de moyens que Nana Akufo-Addo. Il a toujours été dans l'opposition. Et donc ça compte en Afrique, à partir du moment où vous êtes visible, vous voyez. Et c'est vrai que le profil de Nana Akufo-Addo est un peu un profil d'intellectuel, un peu loin, en particulier des zones rurales. Et il passe pas forcément très bien dans les meetings, il fait un peu distant. Et ça, ça lui est pas très très favorable. C'est pas sa première tentative, ça sera probablement sa dernière. Et c'est pas impossible que cette distance et son manque de popularité en général puisse permettre au président sortant de regagner, même si son bilan est loin d'être bon.